Vous êtes avec SBS French. Retrouvez les rubriques sur sbs.com.au/french.
Les grands titres de ce dimanche 12 septembre, la Nouvelle-Galles du Sud enregistre 1262 cas locaux de COVID-19 et 7 décès. Une nouvelle campagne COVID-19 est lancée à travers le pays ce dimanche, ciblant celles et ceux qui hésitent à se faire vacciner. Et puis la Britannique Emma Raducanu remporte la finale de l'US Open de tennis. Mais tout d'abord, la Nouvelle-Galles du Sud qui a enregistré 1262 cas locaux de COVID-19 et 7 décès. Il y a eu une certaine stabilisation dans certaines banlieues préoccupantes, mais le virus continue de s'accélérer dans certaines banlieues du sud-ouest, du centre de Sydney et du centre-ouest. 78% des gens âgés de 16 ans et plus ont reçu au moins une dose d'un vaccin Covid et 45% de la population éligible est complètement vaccinée. La dirigeante de l'État, Gladys Berejiklian, déclare qu'une fois que quelqu'un s'est inscrit pour sa première dose de vaccin, la seconde est garantie.
We're really keen to see that first dose number be as high as possible before we open up to give us that extra level of coverage and safety. I'm personally very looking forward to when we get to 80% double dose and beyond, and that's up to all of us. So please, please encourage anyone in your circle who hasn't yet been vaccinated to come forward and get the vaccine.
Et à partir de demain, lundi 13 septembre, Gladys Berejiklian ne donnera plus de points de presse quotidiens sur le COVID-19 à 11h du matin. Elle déclare qu'elle et d'autres ministres donneraient des conférences de presse si besoin, car elle était incapable de faire son travail correctement si elle continuait à se présenter face aux journalistes tous les jours. Les mises à jour quotidiennes seront présentées en ligne par l'équipe de santé de Nouvelle-Galles du Sud. Le Victoria a signalé ce dimanche 392 nouveaux cas de COVID-19 acquis localement. Le département de la santé indique que 107 cas sont liés à des épidémies connues, la source des 285 autres cas faisant l'objet d'une enquête. 85% des cas actifs ont moins de 50 ans. 65% de la population éligible ont désormais reçu une première dose de vaccin. Le chef du Victoria, Daniel Andrews, a déclaré que plus de 60 000 personnes se sont fait vacciner hier.
Whilst there were 61,000 vaccination bookings made yesterday, a very strong number of bookings, that takes us to 400,000 bookings for the week, which is our strongest week to date. I can inform all of those listening and watching at home that there are 7,000 Pfizer first dose appointments that are empty, vacant, waiting for you at state clinics over the next week, and 11,000 first dose AstraZeneca appointments available at state clinics as well.
Et puis, tous les services de train régionaux dans le Victoria ont été suspendus. Les autocars remplacent plutôt tous les services V-Line. Plus de 180 chauffeurs et membres du personnel opérationnel ont été placés en isolement à la suite de 4 tests de coronavirus positifs parmi les travailleurs. Le Queensland n'a enregistré aucun nouveau cas local de COVID-19 ce dimanche, mais le chef adjoint du Queensland, Stephen Miles, admet que le résultat d'aujourd'hui est le meilleur que les habitants du Queensland auraient pu espérer à ce stade de l'épidémie. Mais quand même, il faut rester vigilant.
Another donut day. I think the health minister's just bought us a couple of donuts to celebrate what is a great result and is a credit to how Queenslanders do as we ask them to do. They wear their masks, they scan their QR codes, they socially distance. You can see all of that happening here at the Kite Festival. And that's what's stood us in such great stead. Of course, people have continued to get tested. We need to continue to monitor the situation, particularly south of the river down through Logan and into the Gold Coast.
La chef de la santé du Queensland, Janet Young, a déclaré que 3 hommes avaient traversé la frontière de la Nouvelle-Galles du Sud pour arriver au Queensland. L'un de ces hommes est resté avec le père d'une famille qui est maintenant testé positif au COVID-19. Dr Young a déclaré que 2 de ces 3 hommes ont maintenant été testés positifs.
I'm now confident that's where the virus came into Queensland to infect those five people. But those two people had minimal exposure in Queensland, so they had not been around and about. So that is good news. They had been down in the Gold Coast, so I would ask that anyone in the Gold Coast, any symptoms at all, no matter how mild, please come forward and get tested.
Le chef de l'Australie du Sud, Stephen Marshall, se dit convaincu que les frontières de son État s'ouvriront aux États touchés par le Covid-19 d'ici Noël, mais il déclare que cela ne se produira que lorsque son propre État, l'Australie méridionale, atteindra la barre des 80% de double vaccination. Stephen Marshall prévient que la frontière pourrait encore être fermée aux personnes qui se trouvent dans les zones sensibles dans un avenir proche. Il y a eu 6 cas de coronavirus dans l'industrie des transports de l'État au cours de la dernière semaine. Le gouvernement de l'Australie occidentale exhorte les parents à faire vacciner leurs adolescents contre le Covid-19 cette semaine, car l'État autorise les vaccins Pfizer pour les résidents âgés de 12 à 15 ans. Tous les habitants de l'Australie occidentale âgés de 12 ans et plus seront éligibles pour un vaccin Covid-19 à partir de demain, lundi 13 septembre. Le ministre de la Santé, Roger Cook, a déclaré que les parents et les tuteurs pouvaient se rendre sur le site web Rollup for WA pour faire une réservation dans une clinique de vaccination gérée par l'État ou prendre rendez-vous avec un médecin généraliste à partir de 8h30 du matin demain, lundi. 50 millions de dollars supplémentaires seront dépensés pour essayer de convaincre les 20% d'Australiens qui hésitent à se faire vacciner contre le Covid-19. Le gouvernement fédéral a lancé ce dimanche 12 septembre une nouvelle campagne promouvant un réseau en expansion de sites de vaccination ciblant un groupe d'âge plus jeune. Le ministre fédéral de la Santé, Greg Hunt, a déclaré que les recherches ont montré qu'un nombre croissant de personnes étaient disposées à se faire vacciner, alors que le pays envisage un taux de vaccination complète de 70 à 80% avant d'assouplir le verrouillage et les restrictions de voyage. Cette campagne appelée « First Things First » cible ceux qui ne sont toujours pas sûrs de se faire vacciner. Il met en évidence les libertés dont bénéficieront les Australiens vaccinés une fois que les objectifs de vaccination de 70 puis de 80% seront atteints. La campagne sera diffusée à la télévision, à la radio, dans la presse écrite, en ligne, à l'extérieur et dans les centres commerciaux. Ailleurs dans le monde, les familles des victimes des attentats terroristes du 11 septembre ont rendu hommage à celles et ceux qui sont morts lors d'une cérémonie spéciale pour marquer le 20e anniversaire de l'événement. Le président américain Joe Biden et les anciens présidents Barack Obama et Bill Clinton ont rejoint les proches des victimes et les premiers intervenants sur la place commémorative du 11 septembre à New York. La cérémonie a débuté par une minute de silence à 8h46, heure exacte à laquelle le premier des deux avions a percuté les tours jumelles du World Trade Center. Le père de Sarah Lowe, une hôtesse de l'air sur l'un des avions détournés, Mike Lowe, a prononcé le discours d'ouverture.
These 20 years have felt like both a long time and a short time. And as we recite the names of those we lost, my memory goes back to that terrible day when it felt like an evil specter had descended on our world. But it was also a time when many people acted above and beyond the ordinary.
Les proches ont ensuite lu à haute voix les noms de 2977 victimes, un rituel annuel qui dure presque 4 heures.
Gordon M. Ameth Jr. Edelmiro Abad. Marie Rose Abad. Andrew Anthony Abate. Vincent Paul Abate. Lawrence Christopher Abel.
On écoute maintenant le témoignage de cette Française, Géraldine Philippi. Présentation François Bernard pour Radio France Internationale.
Géraldine Philippi, qui est une jeune Française installée depuis peu à New York, avait rendez-vous au sommet d'une des deux tours. Il était 8 heures du matin pour une réunion de travail et un rendez-vous qui, par le plus grand des hasards, a été déplacé la veille au soir, le 10 septembre donc, dans un restaurant à une centaine de mètres du World Trade Center. À 8h46, quand le premier avion percute l'une des deux tours, elle entend le choc de l'impact. Elle raconte la suite de cette journée à Michael Ponge.
On entend un grand bruit et on s'approche des fenêtres, on sort sur une petite terrasse et effectivement, à hauteur de vue, on voit un trou assez gros, mais on voit même plus la queue de l'avion, donc je comprends que l'avion s'est désintégré dans la tour et s'approche de nous, au loin, un avion. Et cet avion se dirige vers nous et percute l'arrière de l'autre tour. On pense tout de suite à une attaque terroriste, on comprend que c'est grave et moi je prends mon sac et je dis il faut partir. J'ai voulu partir parce que je me disais si les tours tombent vers moi, eh bien on est tous morts et donc il faut partir. Et donc je suis partie seule. Quand je suis arrivée dans la rue, j'ai entendu le métro qui arrivait. J'ai pensé qu'il fallait que je monte dedans parce que c'était le seul moyen que j'avais de partir rapidement de la scène. Et je suis montée dans le métro. Les portes se sont fermées. Je me suis posé la question de savoir lequel c'était. Je ne savais pas. Et on est passé sous les tours. Et heureusement, le conducteur a eu des instructions. Il nous a emmenés directement à la 33e rue et la 7e avenue. Et quand les portes se sont ouvertes, en montant les escaliers, je me retourne vers le sud de la ville. Et là, je vois une tour qui s'effondre. Et je comprends qu'en l'espace d'une heure et quelques, j'aurais pu mourir deux fois.
La Russie a accusé les États-Unis d'ingérence dans ces élections législatives qui auront lieu dans un peu plus d'une semaine. Un porte-parole du ministère russe des Affaires étrangères a déclaré que l'application Smart Vote du critique emprisonné du Kremlin, Alexei Navalny, était lié d'une manière ou d'une autre au Pentagone. Les partisans de Navalny utilisent l'application pour appeler les Russes à voter contre le parti Russie Unie lors des prochaines élections qui se dérouleront du 17 au 19 septembre prochain. Les précisions de Julien Colling pour RFI.
L'ambassadeur John Sullivan s'est vu présenter les preuves irréfutables, je cite, de cette ingérence. Le ministère des Affaires étrangères russe précise aussi que cette violation de la loi est le fait des géants du numérique américain, sans toutefois préciser la nature de cette violation. En réalité, c'est l'ombre de l'opposant Alexei Navalny qui plane sur cette affaire. La semaine dernière déjà, le gendarme des télécoms russe, le Roskomnadzor, adressait ainsi un avertissement assez ferme aux GAFA, Apple et Google notamment, en cause leur refus de supprimer de leur boutique l'application créée par l'équipe de Navalny pour promouvoir sa stratégie du vote intelligent. Pour rappel, cette tactique consiste à voter dans les régions russes pour le candidat le plus à même de battre le représentant du parti au pouvoir, Russie Unie. Dans le même temps, le Roskomnadzor avait d'ailleurs bloqué 6 différents fournisseurs de VPN, ces logiciels servant à contourner le blocage de plus en plus généralisé en Russie de sites web indésirables. D'ailleurs, le site principal d'Alexei Navalny et celui du vote intelligent sont bien évidemment bloqués eux aussi en Russie depuis quelques semaines déjà. Dans ce contexte de restrictions tous azimuts, difficile de prévoir dans quelle mesure la stratégie de Navalny portera ses fruits dimanche prochain. Car rappelons-le, en amont de ce scrutin important pour le Kremlin, une majorité des candidats d'opposition ou indépendants ont déjà été arrêtés ou empêchés de concourir.
Un mot de sport, Emma Raducanu a terminé son conte de fées new-yorkais et l'un des exploits les plus étonnants du sport en battant Leila Fernandez pour remporter la finale de l'US Open de tennis. On écoute Emma Raducanu.
I really want to congratulate Leila and her team on an incredible fortnight. I mean, she's played some incredible tennis and beaten some of the top players in the world, so it was an incredibly difficult match, but I thought the level was extremely high, and I hope that we play each other in many more tournaments and hopefully finals. Leila's always going to play great tennis and always going to fight. That's just the competitor she is, and that's why she's here in the finals.
On passe à la météo pour ce dimanche. En Australie, à Perth, il fera 19 degrés. Adélaïde, 14. Melbourne, 15. Hobart, 13. Canberra, 18. Sydney, 29. Brisbane, 29. Cairns, 29. Darwin, 33. Et à Alice Springs, maximal de 28 degrés. Un rappel des grands titres de ce 12 septembre. La Nouvelle-Galles du Sud enregistre 1262 cas locaux de Covid-19 et 7 décès. Une nouvelle campagne Covid-19 est lancée à travers le pays ce dimanche, ciblant celles et ceux qui hésitent à se faire vacciner. Fin du journal et merci de rester avec nous.
Vous aimez le programme en français? français? Continuons la conversation sur notre page Facebook. Rejoignez notre page Facebook et partagez vos pensées. facebook.com/SBS French.
Aimez, partagez, commentez. Suivez-nous sur facebook.com/SBS French.